hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ toute cette semaine avec Philippe Solers. Philippe, c'est bien votre prénom, mais Solaire, ce n'est pas votre nom. Pourquoi avez-vous délaissé ce nom de joyau ?
Quand vous dites que ce n'est pas mon nom, si, c'est mon nom.
Ça l'est devenu.
Puisque je me le suis donné. Alors, j'ai deux noms, c'est très pratique dans l'existence. Donc, j'étais mineur lorsque j'ai publié mon premier livre, qui ne plaisait pas vraiment à ma famille, puisque j'y racontais une histoire amoureuse qui s'était passée sous son toit. Donc, j'étais à ce moment-là la majorité, etc., j'étais à 21 ans. Donc, j'étais obligé de prendre un pseudonyme que j'avais tout prêt dans mes papiers, puisque c'était un personnage imaginaire que j'avais créé de toutes pièces et qui s'appelle Solers. Solers en latin, c'est tiré du dictionnaire latin, comme j'aime dire souvent. J'ai tiré mon nom du dictionnaire et puis il s'y retrouve. Donc, c'est quand même pas mal de tirer un nom du dictionnaire et de le revoir dans un dictionnaire français à ce moment-là. Solers, Solerstis, c'est la traduction latine de mon héros absolu dont je lisais les aventures de façon absolument bouleversée. C'est-à-dire tout simplement Ulysse dans l'Odyssée. Ulysse a... Polytropos en grec, l'homme aux mille tours, aux mille ruses. Solaire, ça veut dire ça, rusé, ingénieux, le terrain le plus apte à produire, voilà. Voilà. Et donc, maintenant, je m'appelle Joyau. Et au fond, je ne regrette pas, parce que Joyau, c'était trop brillant. Il fallait quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus, voilà. Je me rappelle très bien, quand j'ai écrit, j'ai envoyé mes premiers textes, c'était Paulhan qui avait dit « Ah, Joyau, c'est bien, c'est un nom de grand écrivain. » Mais non, c'est trop. Joyau et les joyaux de la cour. J'ai été persécuté pendant toute mon enfance à l'école. Joyau, vous n'êtes pas brillant aujourd'hui. Joyau, vous avez oublié d'être une perle. Joyau, vous ne brillez pas tous vos feux, etc. C'est très intéressant la façon dont les communautés réagissent au nom propre. Au lycée où j'étais... Il y avait trois types de noms qui étaient mal vus. Le mien, qui suscitait une moquerie continuelle, et les noms aristocratiques et les noms juifs.
À partir de quel moment avez-vous décidé d'envoyer Une curieuse solitude à un éditeur ?
Ça s'est passé d'abord par un court texte que j'avais envoyé parce que j'avais vu qu'il avait créé une collection, c'était à Jean Cayrol, aux éditions du Seuil, il avait créé une collection qui s'appelait « Écrire pour des jeunes écrivains », etc. Bon, j'avais envoyé une nouvelle qui a déjà fait du bruit, puisque ça a déclenché mon corps religionnaire, enfin bon, mon homme de Bordeaux, enfin des Landes plutôt, Mauriac, qui a fait un grand article, oui, c'est ça, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Et par la même occasion, j'envoie ce que je venais d'écrire, c'est-à-dire le roman, voilà. Qui lui, alors, a déclenché autre chose encore, c'est-à-dire un grand, grand papier d'Aragon. Alors, il y a eu Mauriac, puis il y a eu Aragon, puis ça a été un succès pour un type qui a 20, 21 ans, c'est pas mal.
Alors, j'ai devant moi l'exemplaire de l'époque que j'ai emprunté à la bibliothèque de Radio France. Une édition toilée de ce roman, Une curieuse solitude.
Oui, c'est une édition à part, oui.
Et où vous dites ceci en exergue. Vous en souvenez, Philippe Solers ?
Le plus beau des courages, celui d'être heureux. Ça, c'est Joubert. Mais il y a le tétrapharmacon de Diogène Lénandau. Hein. C'est deux exergues. Hein.
Oui, mais il y en a une troisième. C'est très étonnant. où vous écrivez ceci. Je ne crois pas que vous l'avez rajouté plus tard. Je crois que c'est dans l'édition originale que j'ai dans les mains. Ce qu'un écrivain écrit d'abord et qui surprend certains par l'imperfection, l'inachevé de la forme et de la composition, lui-même envoie la source et les prolongements, la place de ce seul livre dans un ensemble qui est sa vie, une obstination à l'analyse comme à la restitution des souvenirs, une architecture fragmentaire qui, chez les meilleurs, est l'annonce d'un développement futur. Si l'on pressent cette ligne secrète et annoncée dans un livre, si la forme et la musique en sont telles qu'on le se sente entraîné vers la même obsession et le même plaisir, alors ce livre démontre une inflexible volonté. On ne juge pas un livre par rapport à une œuvre achevée, car il a devant lui tout l'espace sensible. On le juge, on l'aime, pour ce que, doucement, il promet et tient déjà. On ne fait pas mieux, mais plus complet, pour cette route encore incertaine qu'il est seul à connaître et à révéler.
Oui, ça c'est une préface que j'ai dû écrire un peu plus tard. Donc le livre ne commence pas comme ça.
Non, mais c'est un manifeste.
Oui, c'est une préface. C'est pour annoncer que je n'avais pas l'intention de m'en tenir là, que les éloges que je recevais me faisaient grand plaisir, mais que c'était en même temps un handicap, qu'il fallait, au lieu de m'asseoir dans le fauteuil qui m'était si aimablement tendu par des stars de la littérature, qu'il valait mieux rompre et partir dans les montagnes, faire autre chose.
Alors ce livre se lit avec infiniment de plaisir, et ce qui est très étonnant quand on le lit pour la première fois, ce qui a été mon cas pour ces entretiens, c'est que Solaire, c'est déjà tout là.
C'est la situation qui est intéressante, la situation à Bordeaux, le personnage féminin qui est très très important.
Concha.
Oui, qui s'appelle, dont je restitue l'identité dans...
Dans votre prochain livre, voilà, et on s'aperçoit que Concha a vraiment existé. Donc Concha est une femme mûre pour un jeune homme de 15-16 ans.
Elle a plus de 30 ans, voilà. Elle vient par le circuit clandestin basque-espagnol. Et elle trouve une couverture d'employé de maison, comme on dit maintenant, enfin de femme de chambre. Oui, très bien, pourquoi pas, oui.
Et donc, au sens bunuelien du terme, pas desquien du terme.
Oui, mais enfin, bon, tout ça n'a pas été vraiment, vraiment compris. C'est toujours les mêmes clichés qui reviennent. C'est le garçon de la bourgeoisie qui se
fait
tape
déniaiser.
La bonne, patati, patata, en silence. Tout ça me choque profondément. C'est un cliché qui m'est chaque fois repris, chaque fois répété. Alors que le portrait que je fais de cette femme admirable, qui avait des convictions tout à fait anarchistes et qui attendait de sortir de l'après-guerre.
Puis surtout, elle ne parle pas la même langue que lui, et lui, il est intéressé par cette langue qu'il apprend d'elle.
Oui, c'est ça. Je parlais déjà un peu l'espagnol quand même, mais j'ai fait des progrès foudroyants en quelques mois, notamment sur l'argot sexuel. Et le fait de parler une langue étrangère, j'aime beaucoup les étrangères. Voilà. C'est une sorte de détermination dans mon existence, probablement à cause du fait que il peut y avoir un décalage aussi dans le vocabulaire, les phrases, l'accent. Donc, je parlais beaucoup espagnol avec elle, oui, bien sûr.
Il y a plusieurs styles.
On faisait l'amour en espagnol.
Oui, alors ça, c'est très important, les mots qu'on échange pendant l'amour.
Eh ben, écoutez, oui, c'est pour ça que j'étais plus, après, beaucoup plus loin, par exemple, dans une étude assez constante. Et,
dans tous vos livres, vous parlez de ça.
Oui, mais enfin, par exemple, je dois à cette aventure-là, qui a été extrêmement importante pour moi, une connaissance très, très intime de l'œuvre de Picasso. Donc, c'est-à-dire du Picasso érotique, par exemple, à Barcelone, et de l'œuvre de Picasso lui-même. J'ai enregistré...
Picasso, les Demoiselles d'Avignon, que vous avez mis en couverture de femme.
Oui, c'est drôle, cette histoire de couverture de femme en folio, parce que c'est un détail de Demoiselle Vignon, tableau sublime que j'allais voir très souvent à New York où il était à l'époque. Et c'est un tableau évidemment prodigieux qui n'a pas été compris du tout au moment où il a été fait. Mais ce qui est drôle, c'est que quand le livre est paru en poche, folio, j'ai choisi un détail de Demoiselle d'Avignon. Nous sommes en 1900, un peu après 83, 84, vous voyez, tard. Et je me rappellerai toujours que la personne qui dirigeait cette collection à l'époque, qui était d'ailleurs d'origine allemande, était en haut d'un escalier et elle me tend de loin cette couverture et elle me dit avec un fort accent allemand « Mais qui a choisi cette cochonnerie ?» Donc ça dit beaucoup de choses, vous voyez, Picasso, c'est vraiment pour moi quelqu'un de très très important. Voilà, donc apprendre l'espagnol, c'était quoi aussi? C'était apprendre la guerre d'Espagne, quelque chose de très très important pour un petit bordelais, très de famille. Assez bizarre, parce que ma famille était, donc je cherche à la bougie s'il y en a eu des comme ça, deux frères ayant épousé deux sœurs vivant dans deux maisons symétriques, mais surtout les opinions politiques, bien que ce fussent des bourgeois tout à fait stricts, la banque et la Westminster de Londres, il n'y a pas de problème, mais ils étaient anglophiles.
Ils écoutaient Général de Gaulle à la radio.
Radio Londres, dans les greniers. Les Allemands sont arrivés à Bordeaux et ils ont occupé tous les rez-de-chaussée et des maisons. Ils étaient là, ils s'installaient chez nous. Au grenier, donc résonnaient les voix allemandes. Hein, voilà. Au grenier, on écoutait Radio Londres, c'est-à-dire les messages personnels. Je vais y revenir. Cette confusion des langues pour un enfant qui a 6, 5, 6, 7 ans était extraordinairement intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y avait les réfugiés espagnols qui venaient et qui franchissaient la dernière frontière de la Bilassor vers Bordeaux. Il y avait pas mal de réfugiés italiens aussi, Mussolini. Et cette radio brouillée qu'on écoutait très attentivement avec mes parents, ma mère, au grenier. Alors, ça donnait des choses absolument merveilleuses. D'abord, on était pour l'Angleterre. L'Angleterre ne se trompe jamais. C'était le slogan de la famille. L'Angleterre a toujours raison. C'est pas exclu, d'ailleurs, hein, y compris aujourd'hui. Mais enfin, bon, l'Angleterre a toujours raison. Alors, oui, c'est eux, quand même, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale en se battant... admirablement au-dessus de la Manche. Churchill était un mendiant à l'époque. Il réclamait l'intervention des États-Unis, qui ne pouvait pas avoir lieu. Roosevelt appelait Staline Uncle Joe, comme vous savez. Donc il a fallu beaucoup de temps avant que la grosse machine américaine, il a fallu que les Japonais s'en mêlent. Donc c'était déjà l'histoire mondiale pour un petit garçon à Bordeaux. Alors la radio, ça donnait ça. Bien, ici, le brouillage, hein. Il faudrait faire entendre ça à un moment, ça serait merveilleux. Hein, ici, Londres, les Français parlent au français. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces Français qui parleraient aux Français? Lesquels, d'ailleurs, hein, on sait pas. Oui, les Français étaient à 97% pour le maréchal Pétain, n'est-ce pas? Bon, pas l'oublier. Alors... les Français parlent au français. Voici quelques messages personnels. Et là, la poésie admirable apparaît. Voilà. Une hirondelle ne fait pas le breton. D'accord. Mais voyons. Le cardinal se porte bien. Nous aimons les femmes en bleu. Je répète. Nous aimons les femmes en bleu. Nous nous roulerons sur le gazon. Je répète, nous nous roulerons sur le gazon. Voilà. Alors écoutez, c'était un foudroyant d'intérêt. Le surréalisme à côté n'est jamais arrivé à une intensité pareille. Tu vois, et donc j'ai pris la décision, dès cet âge-là, de me rouler beaucoup avec des femmes en bleu sur du gazon, par exemple. Vous voyez.
Dans une curieuse solitude, il y a plusieurs styles, plusieurs genres. Et déjà, toute votre écriture est en place, elle est mise en jeu. Et il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce vilain mot, de autofiction. Voici ce que vous écrivez à propos de l'écriture. Parce qu'en fait, votre sujet, c'est l'écriture. Vous avez publié combien ? 60 romans ? Voici ce que vous écrivez. Donc, vous venez d'avoir 19 ans. Je commençais d'écrire. Je n'avais que 20 ans. Je savais ce que j'allais écrire serait d'abord mauvais et qu'il le fallait sans doute si je voulais atteindre un jour à la perfection de mon provisoire enthousiasme. Mais je faisais du mot à mot au sens où l'on dit lutter corps à corps. Je connus ce découragement, ce doute, quand ce n'est pas ce dégoût. D'une journée, je ne vivais que quelques minutes favorables, le reste étant dépensé à les provoquer. Enfin, toute l'énergie, toute l'inquiétude dont j'étais capable vis-à-vis du monde, je savais que j'allais l'user à cette épuisante question. Tant d'obscurité vaut-elle si intermittente lumière, mais inappréciable ? Point d'interrogation.
Bon, pour un type de 7 ans, je ne sais pas si mal, oui. Pas si mal. En réalité,
ça continue, hein.
Oui. En réalité, ce qui est
en 2013, ça continue. C'est la même chose dont il s'agit, non?
Oui, toujours.
Est-ce qu'on acquiert l'écriture?
Sauf qu'on devient, on se perfectionne, indubitablement.
En êtes-vous sûr? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque livre que vous publiez, il y a une prise de risque, quand même.
Oui, mais on élargit, on a d'autres expériences, on voyage plus, beaucoup, on voit la société d'une façon beaucoup plus acide, beaucoup plus critique.
Les voyages rentrent dans l'écriture, enfin,
oui, bien sûr.
C'est le thème, c'est une thématique récurrente de votre œuvre.
Le moment, c'est tout ça, c'est une histoire entre le corps et le langage. Hein. Est-ce qu'on a un corps disposé à entendre
Radio Londres.
Par exemple, pas seulement. À entendre, par exemple, que les conversations d'adultes sont fausses, qu'ils mentent, qu'ils ne sont pas vraiment dans le coup. Donc, ça, on apprend très vite.
Décrypter la langue.
Il faut décrypter ce qu'il y a derrière, oui. Ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se dit? Bon, ben, quelqu'un comme Freud a joué un rôle considérable dans mon existence ultérieure. Hein, vraiment, bravo, bien joué. Mais le problème essentiel, c'est...
Pourtant, vous n'avez jamais fait d'analyse. Et vous vous défiez de la psychanalyse.
Non, pas du tout. Je suis absolument...
Pas en tant que corpus théorique, mais en tant que...
Non, absolument.
Possibilité de rentrer en analyse pour déplier votre inconscient.
Mais non, là, je n'ai pas... Mon inconscient est à ma disposition. Ma femme
est... C'est ce que vous croyez.
Mais c'est ce que je crois et que j'ai raison de croire. La preuve, c'est que ma femme est analyste et je suis son meilleur patient sans payer. Enfin, en payant autre chose. Non, c'est... Le type est... N'oubliez pas, Solers, Ulysse, rusé, ingénieux, attention.
C'est peut-être le personnage, Solers.
Oui, mais c'est pareil. Rusé. Mais l'écrivain aussi, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on devient écrivain, selon moi, en tout cas dans mon expérience personnelle, c'est parce qu'on découvre que lire est une activité absolument mais prodigieuse. Et ça, j'ai raconté ça 2 ou 3 fois. Ça se passe à la campagne, ma mère d'à côté de moi, elle me fait annonner le béaba. J'ai 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Et puis tout à coup, la phrase vient. Enfin, et elle me dit, ah ben maintenant tu sais lire. Et ça, c'était le sésame, c'était vraiment la révélation. Je me rappelle avoir couru dans la campagne en me disant, ça y est, j'ai l'arme atomique suprême. Je sais lire. Alors évidemment, je ne savais lire que des choses très élémentaires. Mais le fait de rentrer dans le langage, d'être capable de m'en servir, y compris contre les personnes que je pourrais rencontrer en les écoutant d'une certaine façon, etc. C'est ça.
C'est-à-dire que la culture orale, c'est-à-dire ce que vous entendez du monde dès l'âge de 5-6 ans et ce que vous allez découvrir dans certains livres, vont tout d'un coup s'assembler pour faire une sorte de grande toile que vous allez décrypter.
Ah oui, absolument. Il y avait des bibliothèques, il y avait des livres. Je sais pas, ma mère lisait Proust ou Colette. Ma tante lisait Dostoïevski, Locke, lisait Dostoïevski parce qu'elle était très très rongée par du pathétique. Peu importe. Elle lisait. Des femmes lisaient. Est-ce qu'elle se souvenait de ce qu'elle lisait? J'émets un doute. Mais en tout cas, elle s'enveloppait pour avoir la paix, sans doute, avec des livres. Bon. Donc ça m'intriguait déjà. lire cette pratique, c'est une pratique. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment lu sans cesse, et je lis encore sans arrêt. Première lecture, c'est les classiques. Je peux vous réciter du La Fontaine. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Il n'est rien qui ne me soit souverain, bien. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne. Enfin, tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain, bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Écoutez ça, écoutez la double négation. Il n'est rien qui ne me soit souverain. Voilà. Amant, heureusement, voulez-vous voyager, que ce soit aux rives prochaines. Soyez un monde toujours beau, l'un pour l'autre, un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, tenez pour rien le reste. Vous voyez que c'est une déclaration d'anarchisme assez fondamentale. Voilà. Ou alors Baudelaire, la grande illumination de mon adolescent vers 12, 13, 14 ans, quand les désirs affluent, c'est Baudelaire. Et ça, c'est admirable parce que le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir immédiatement à sa disposition musicalement l'équation suivante qui vient tout naturellement? Est-ce que c'est ça? C'est la grâce même.
Mais vous y associez des images à cette période-là?
Oh oui, attendez, on arrive aux images. D'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'il faut mettre ensemble les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Hein, puis ensuite, c'est les bosquets. Bon, d'accord. Les images viennent immédiatement. Ces poussins, ce sont les bacchanales. Parce que les enfants avec les brocs de vin dans les bosquets, il faut voir des bacchanales. Automatiquement, vous êtes attirés. Il y avait des livres d'art, je sais pas. Vous êtes attiré par la peinture, évidemment, par ce qui peut se voir comme nudité en peinture. On s'en renseigne très vite, quand même. La Rubens est absolument incomparable. Goya s'ensuit. Tous les peintres. Manet, par exemple. Je répète sans arrêt que ça a été pour moi une confrontation absolument admirable. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les gens voient la peinture? C'est pas sûr. Est-ce qu'il voit?
Vous vous dites qu'il ne faut jamais dissocier littérature, musique, peinture.
Voilà. C'est les cinq sens à la fois. C'est l'aphorisme de Lichtenberg, c'est « il y a très peu de choses que nous pouvons goûter avec les cinq sens à la fois ». Alors, c'est évidemment une énigme amusante, parce qu'évidemment, c'est faire l'amour. Bon, goûter quelque chose avec les cinq sens à la fois, si on a ces cinq sens... pour ce genre de d'action. Donc, on vit dans un monde absolument terrible où tout le monde est scotché à l'œil, c'est-à-dire à la fausse image, parce que la peinture n'est pas une image. Les gens croient que c'est une image, mais il faut sentir la touche, le pinceau, l'air qui respire à l'intérieur, le désir qui se cache dans les arbres ou dans les vêtements. C'est pas une image, on peut en tirer une image, mais ça ne donnera pas la sensation même de la peinture. Et puis alors, est-ce qu'ils savent écouter le langage qui est parlé? Est-ce qu'ils savent discerner l'envers de l'histoire contemporaine? Est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on leur ment? Par exemple, voilà, j'ai écouté à 6 ans Radio Londres, avec ces belles voix, enfin, des discours très, très, très résistants, admirables d'ailleurs, que vous avez ça recueilli dans un livre qu'il faut lire, parce que tous les discours, Schumann ou d'autres, sont magnifiques. Marie Curie, par exemple. Alors, après, je pouvais mettre, évidemment, la radio nationale, la radio pétainiste, radio Vichy. Hein, il y avait Vichy, il y avait Moscou, donc on n'en sort pas. Moi, c'est Londres, et puis l'Italie. Donc, la radio nationale, c'était des voix blanches, mais ahurissantes. Donc, vous pouvez réécouter tant que vous voulez. Aujourd'hui, le maréchal Pétain est allé visiter le jury Goncourt. Il a été reçu en grande pompe. Voilà, évidemment, c'est pas la même chose que...
C'est bizarre que vous preniez le prix Goncourt, tiens.
Si, je sais pas, oui. Ouais, en tout cas, je suis sûr de la séquence. Hein, vous pouvez prendre... Oui, ça me reste. Le prix est membre du jury Goncourt. Voilà, c'est ça. Eh bien, continuez. Alors, ben, évidemment, les voix...
Au fond, vous êtes c'est un ventriloque.
Non, parce qu'un ventriloque, ça consisterait à... Je suis un très bon imitateur, si je veux. Et je dois ça à ma mère, qui était extrêmement douée pour ça. On avait des rires absolument invraisemblables. Elle pouvait... Vous savez, c'est le théâtre, ça. C'est la capacité de jouer avec les voix, les rôles, etc. Non, c'est un art. C'est pas du tout subi. C'est pas du tout de l'imitation malgré soi. Ou subi, non. Hein, vous voyez, l'ordre, bon, eh bien, Solers, hein, à mon avis, hein, c'est quand même dans la République ce qui se fait de mieux. Voilà. Jamais Mitterrand n'a dit ça. Peut-être qu'il, d'ailleurs, il aurait pu le dire. Voilà. Alors, écoutez, les voix, c'est très, très important. Et si nous n'avons pas assez d'enregistrements de voix. Les documents de radio sont pas assez...
On vous a préparé une petite surprise. Nous avons la voix d'André Breton.
Oh oui, j'adore. Un peu trop solennel. C'est comme la voix d'Aragon. Et tu vois, petit, il faudrait réciter ses poèmes. Oui, je les ai connus tous les deux. Je les vois Breton,
pour
lequel j'avais une immense admiration. Et puis alors aussi Aragon. Tu comprends, petit, le problème n'est pas d'être communiste. Le problème est de savoir si on plaît aux femmes. Ah bon, voilà. Donc, non, il y a peu de grandiosité comme ça aujourd'hui. Je suis content de les avoir connus. La voix la plus impressionnante, parce que c'est une voix alors complètement décalée par rapport à aux autres qui ont fait leur classe vocale encore au 19e et chez Sarah Bernhardt, c'est évidemment la voix de Céline qui s'impose avec une radicalité. C'est une merveille, hein, l'enregistrement de Céline. Lui, il est moderne. Lui, il parle avec la voix de son temps. Alors que les autres, en effet, répètent la façon de déclamer, la façon de s'exprimer. Voilà, j'ai marché sur la treille immense de ta robe. Oui, non, bah, d'accord. Vous comprenez, c'est comme les mêmes qui disaient à Anna de Noailles, qui faisait des alexandrins. Hein, madame, on ne fait plus d'alexandrins aujourd'hui. C'est vrai, on ne peut plus. Voilà.
Alors, la voix de Breton, je veux bien.
La voix de Breton, oh, il était merveilleux, Breton. Je suis allé le voir, je lui ai écrit d'abord, il m'a répondu très gentiment.
Donc là, vous aviez 20 ans, 21 ans.
Ouais. J'allais tous les.
Vous étiez gonflé quand même, hein? Donc vous êtes monté, comme on disait, de Bordeaux à Paris.
Je suis un aventurier.
Vous connaissiez personne?
Non, personne. Je n'avais pas envie, mais je savais très bien.
Mais vous aviez vos livres avec vous, donc Paris vous appartenait.
J'avais ma rêverie, j'avais surtout une ambition très forte, qui était de créer un mouvement littéraire un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que j'allais tous les jours à la bibliothèque de l'Arsenal lire les revues surréalistes. C'est-à-dire le surréalisme au service de la Révolution. Et là, c'était une merveille. Écoutez, l'époque...
Il n'y a pas de plus belle bibliothèque à Paris.
L'époque était quand même sinistre, comme elle l'est aujourd'hui, d'une autre façon. Enfin, c'est toujours une époque plus ou moins sinistre. Il y a 68, ça a quand même un peu bougé. Mais enfin, 58, 60, la guerre d'Algérie, d'un côté, bon, les placards, vous aviez Vichy d'un côté, Moscou qui a mis fort, fort longtemps à se désagréger, et c'est toujours pas fini, sauf en versant dans la mafia en Russie. Très bon livre à lire, celui de Jacques de Saint-Victor sur la mafia. Un énorme livre sur la planétarisation de la mafia. Très intéressant. Et aucun écrivain n'a l'air de s'en rendre compte, parce que je ne sais pas de quoi ils parlent, de leurs petits problèmes personnels. C'est l'histoire qui est intéressante. C'est l'histoire qu'il faut voir. Et donc, Breton, c'était rue Fontaine, 42. Je suis arrivé au moins avec une demi-heure d'avance. Il avait franchi son barrage téléphonique.
Comment ?
Parce qu'il m'avait écrit de lui téléphoner. Donc, Là, j'avais déjà rencontré Mauriac, que c'est aussi. Alors, vous comprenez? Vous comprenez? Gide était passionnant, mais il ne s'en rendait pas compte que ce qu'il faisait était mal. Alors, l'après-midi, à Malaga, on était quand même obligé de prévenir les paysans de garder leur garçon à la maison. Il partait comme un fou après déjeuner et rentrait vers 5h du soir, comme un satyre. Il ne se rendait pas compte que c'était mal, pas bien, quoi. Voilà. Après, alors, on avait des discussions. C'était quelqu'un de charmant. On parlait de Shakespeare. Enfin, bon, d'accord. Donc, j'arrive en avance pour voir Breton. J'étais très impressionné. Le pape lui-même. Et ça a été extrêmement simple et chaleureux de sa part. Je revois tout le cerveau de l'enfant, un tableau de Chirico qui était à gauche, exactement alors qu'il me faisait face. Puis on a transposé son atelier avec toute cette magie de masques et de statues. J'étais donc dans l'antre de la poésie même. Il avait pour moi une immense importance. Pourquoi, par exemple, avoir discerné le premier, là il y a eu des gens qui sont ridiculisés, Pascal Piat, Maurice Nadeau, etc., avoir discerné le premier que la chasse spirituelle publiée comme étant du Rimbaud n'était pas du Rimbaud. Ce qui saute aux yeux, voyez le langage, c'est-à-dire qu'on décrète que c'est du Rimbaud, tout le monde croit que c'est du Rimbaud, mais il suffit de connaître un peu la musique, le rythme interne et le choix des mots pour s'apercevoir que c'est faux. Breton, il faut lire tous les textes de Breton contre le réalisme socialiste. Il faut lire tous les textes antistaliniens de Breton. La brouille avec Aragon est très importante, elle n'est pas assez connue. Il faut lire La clé des champs, une virulence. Bon, évidemment.
Vous les aviez tous lus, les livres.
Tout ça a été passionnant. C'était l'histoire de mon temps, quand même.
Mais vous n'êtes pas venu lui poser des questions?
Si. Je lui ai posé par écrit pour l'Orbit tel quel, et il m'a dit qu'il allait répondre, mais qu'il n'avait pas le temps, etc. Bon, mais très, très. Breton m'a écrit pour me féliciter d'une curieuse solitude. J'en étais très étonné, bien que, m'écrit-il, vous soyez sous le double parrainage redoutable de Mauriac et d'Aragon. Mais j'ai porté votre livre à Benjamin Perret à l'hôpital pour qu'il puisse le lire, etc. Vous voyez, tout ça en même temps.
Ça vous a pas tourné la tête ?
C'est très difficile de me faire tourner la tête parce que je suis vraiment raisonnable au dernier degré, vous savez. Je tourbillonne.
Raisonnable ou très content de vous ?
Oh non, si j'étais très content de moi, je me tournerais. Oui, je me laisserais tourner la tête. Non, non, non. Je ne suis pas du tout. Vous sentez que je suis content de moi ? Non, je suis.
Par moment, vous faites le personnage qui est très content de lui.
Mais c'est pas ça. C'est que je vous abreuve d'informations qui ne sont en général pas connues à mon sujet. Et évidemment, il y en a tellement que c'est contradictoire avec le portrait soi-disant médiatique, etc. Et les clichés à mon sujet, dont celui que vous venez d'employer, à savoir que je serais content de moi.
Alors pourquoi un jeune homme qui vient d'écrire un livre qui est remarqué par les plus grands écrivains décide-t-il de rencontrer André Breton ? C'est un peu bizarre à l'époque, parce que c'est le début d'une nouvelle écriture, c'est le début de l'écriture blanche, non. C'est le début de l'écriture du nouveau roman. Non. Vous allez chercher
oui.
André Breton.
Oui, parce que...
Pourquoi ?
C'est l'éthique. C'est-à-dire, c'est lui qui dit la vérité. C'est pas un homme de lettres. Ça n'est pas... Il écrit, d'accord.
Ce n'est plus le pape du surréalisme.
Non, quoique... Enfin, oui, le surréalisme, c'est...
C'est fini.
C'est fini. Enfin, vous savez... Vous avez
non, mais je veux dire dans les clichés.
Aujourd'hui même, vous avez... Tout le monde se prosterne devant Dali. Alors, donc, comme
et
si...
Et vous, vous prosternez devant Dali ?
Non, pas du tout. Avida Dollars, comme a dit Breton. Picasso, c'était le grand cauchemar de Dali, c'est Picasso, comme vous savez. Non, politiquement...
Il faut choisir.
Ben, c'est une question... C'est une question dont on fait souvent une polémique politique, mais le goût et la politique, c'est la même chose. Donc, voilà. Et Breton, c'était tout simplement l'éthique. L'éthique de quoi ? De la poésie elle-même, qui suppose une éthique qu'on ne considère pas de la morale. Une certaine... Bon, quand Breton vous dit, de façon, à mon avis, très, très émouvante, que sa vie a été absolument dédiée à la liberté, à l'amour et à la poésie, et qu'il n'a transigé sur aucun de ces trois points, il faut savoir de quoi il est question. L'amour, la liberté, la poésie, ou la poésie, l'amour, la liberté, comme mettez ça dans l'ordre que vous voulez. C'est une éthique très, très, très étonnante, avec évidemment une attention tout à fait particulière aux grandes choses qui ont fait bouger la raison, la conscience, même de la langue. C'est-à-dire l'autre amour d'abord. On ne parlera jamais assez de la découverte des chants de Maldoror par Breton et Aragon lorsqu'ils étaient médecins au Val-de-Grâce. On ne parlera jamais assez du fait qu'ils étaient les premiers, enfin vraiment, à recopier intégralement les poésies de M. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, livre toujours pas lu.
Livre dont vous parlez beaucoup.
Et je parle beaucoup parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi c'est pas lu. Parce que ça transforme complètement le raisonnement. Bon, et pourquoi Rimbaud, et pourquoi... voilà. Donc, c'est tout. C'est ça, la grande aventure du XXe siècle, désormais tout à fait oblitéré, occulté, peu connu. Les gens, parce que personne ne lit, personne n'a la passion de l'amour, de la liberté, de la poésie.
Mais vous allez voir Breton et en même temps vous... Hors champ. Hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors champ toute cette semaine avec Philippe Solers. Philippe, c'est bien votre prénom, mais Solers, ce n'est pas votre nom. Pourquoi avez-vous délaissé ce nom de joyau ?
Quand vous dites que ce n'est pas mon nom, si, c'est mon nom.
Ça l'est devenu.
Mais je me le suis donné. Alors, j'ai deux noms, c'est très pratique dans l'existence. Donc, j'étais mineur lorsque j'ai publié mon premier livre, qui ne plaisait pas vraiment à ma famille, puisque j'ai raconté une histoire amoureuse qui s'était passée sous son toit. Donc, j'étais, à ce moment-là, la majorité, etc., à 21 ans. Donc, j'étais obligé de prendre un pseudonyme que j'avais tout prêt dans mes papiers, puisque c'était un personnage imaginaire que j'avais créé de toutes pièces et qui s'appelle Solers. Solers, en latin, c'est tiré du dictionnaire latin. Comme j'aime dire souvent, j'ai tiré mon nom du dictionnaire et puis il s'y retrouve. Donc, c'est quand même... pas mal de tirer un nom du dictionnaire et de le revoir dans un dictionnaire français à ce moment-là. Solers, Solerstis, c'est la traduction latine de mon héros absolu dont je lisais les aventures de façon absolument bouleversée. C'est-à-dire tout simplement Ulysse dans l'Odyssée. Ulysse a... Polytropos en grec, l'homme aux mille tours, aux mille ruses. Solaire, ça veut dire ça, rusé, ingénieux, le terrain le plus apte à produire, voilà. Voilà. Et donc, maintenant, je m'appelle Joyau. Et au fond, je ne regrette pas, parce que Joyau, c'était trop. trop brillant. Il fallait quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus... Voilà. Je me rappelle très bien quand j'ai écrit, j'ai envoyé mes premiers textes. C'était Paul Lang qui avait dit « Ah, Joyot, c'est bien, c'est un nom de grand écrivain. » Mais non, c'est trop. Joyot et les Joyaux de la cour. J'ai été persécuté pendant toute mon enfance à l'école. Joyot, vous n'êtes pas brillant aujourd'hui. Joyot, vous avez oublié d'être une perle. Joyot, vous ne brillez pas tous vos feux. Enfin, etc. C'est très intéressant la façon dont les communautés réagissent au nom propre. Au lycée où j'étais... Il y avait trois types de noms qui étaient mal vus. Le mien, qui suscitait une moquerie continuelle. Les noms aristocratiques et les noms juifs.
À partir de quel moment avez-vous décidé d'envoyer Une curieuse solitude à un éditeur ?
Ça s'est passé d'abord par un court texte que j'avais envoyé parce que j'avais vu qu'il avait créé une collection, c'était à Jean Cayrol, aux éditions du Seuil, il avait créé une collection qui s'appelait « Écrire pour des jeunes écrivains », etc. Bon, j'avais envoyé une nouvelle qui a déjà fait du bruit, puisque ça a déclenché mon corps religionnaire, enfin bon... Mon homme de Bordeaux, enfin des Landes plutôt, Mauriac, qui a fait
François.
Un grand article, oui, c'est ça, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Et par la même occasion, j'envoie ce que je venais d'écrire, c'est-à-dire le roman, voilà. Qui lui, alors, a déclenché autre chose encore, c'est-à-dire un grand, grand papier d'Aragon. Alors, il y a eu Mauriac, puis il y a eu Aragon, puis ça a été un succès pour un type qui a 20, 21 ans, c'est pas mal.
Alors j'ai devant moi l'exemplaire de l'époque que j'ai emprunté à la bibliothèque de Radio France, une édition toilée de ce roman, Une curieuse solitude.
C'est une édition à part, oui, ça doit être. Oui.
Et où vous dites ceci en exergue, vous en souvenez, Philippe Solers ?
Le plus beau décourage, celui d'être heureux, ça c'est Joubert, mais il y a le tétrapharmacon de Diogène Dénandau, hein. C'est deux exergues. Hein.
Oui, mais il y en a une troisième, c'est très étonnant.